Aujourd'hui, le Canadien, c'était retour à l'entraînement. On en parle avec Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin!
Bonsoir Jérémy.
Bon Martin, c'était retour à l'entraînement, mais surtout, on a eu la chance d'entendre Alexander Romanov qui a quand même accompli de belles choses à son premier match.
Absolument. Je pense qu'il s'est plus que bien défendu. En termes de minutes de jeu, écoute, au-delà de 20 minutes, presque 22 minutes, là, si ma mémoire est bonne, il était le troisième défenseur le plus utilisé. Il a donc devancé Joel Edmondson, qui techniquement fait partie du top 4. Là. Il a eu plus de minutes que Kulak. Alors donc, pour Romanov, c'est une bonne rentrée. Je pense qu'il a été à la hauteur de ce qu'on a dit de lui pendant ces longs mois-là. Aujourd'hui, c'était de mise de lui parler, parce que hier on sait que le Canadien a voyagé et ils ont eu congé des médias. Alors, on s'est repris et je vous ai gardé une espèce de collage des courtes phrases en anglais que nous a donné généreusement Alexander Romanov. Je peux vous dire que c'est un jeune homme qui est aussi attachant à l'extérieur de la patinoire qu'il peut l'être quand on le regarde. Quand je dis attachant, c'est sa sincérité et tout ça qui est intéressante, et surtout, c'est quelqu'un qui semble faire l'effort pour parler en anglais, pour communiquer. Puis malgré de courtes phrases, Jérémy, là, que j'ai collées un petit peu pour que vous puissiez faire connaissance avec lui et l'entendre, vous allez entendre justement la sincérité du jeune homme et le fait qu'il est très heureux actuellement et qu'il vit de bons moments à ses débuts de carrière de la Ligue nationale. Voici Alexander Romanov.
A little bit nervous, because I don't know what is it, like NHL. Hell, in real life, I didn't understand where I am. Like it was so fast, I nervous a little bit. But next shift, it was better and better.
Mon Dieu, pour un gars qui était nerveux, il a quand même bien fait le boulot.
Ben oui. Puis ce qu'il expliquait, c'est que sa première présence, là, il se demandait où est-ce qu'il était, là, parce que à la vitesse que ça va dans la Ligue nationale, je pense que là, il l'a réalisé. Il nous a dit également que en comparaison avec le championnat mondial de hockey junior qu'il avait vécu et la KHL, ben évidemment, la Ligue nationale, on va prendre une marche supplémentaire. Mais jusqu'à maintenant, il s'est bien adapté. C'est sûr que c'est très tôt, là. Mm-hmm. C'est le premier match d'une série de 56 au total. Alors, on verra bien, mais il a donné quand même, livré une très bonne impression. Il y a Jeff Petrie, à qui j'ai questionné concernant Romanov, puis Petrie disait, tu sais, il a le coup de patin, il a un bon sens du jeu, il fait une bonne première passe et il a un très bon coup de patin. Alors, je pense que Petrie est assez bien placé pour être capable d'évaluer un joueur qui a un bon coup de patin. Et surtout, on est capable de voir avec Jeff Petrie que quand un joueur peut combiner, là, faire des bonnes passes et patiner et être un joueur intelligent, ben il y a de la place quand même à progression, parce que je pense que les Oilers d'Edmonton, s'ils pouvaient kidnapper Jeff Petrie ce soir, puis le garder, puis le reprendre, je suis convaincu qu'il le ferait. Jérémy, je vais te parler un petit peu du désavantage numérique. C'est un sujet un petit peu inévitable, parce que après le match inaugural mercredi soir à Toronto, là, où les Maple Leafs en quelque sorte sonné la charge dans le match et leur retour en force avec l'avantage numérique. Là, le Canadien s'en va dans une équipe qui en fait sa marque de commerce, les Oilers d'Edmonton, avec le monstre à deux têtes, là, Leon Draisaitl et Connor McDavid. L'autre monstre à deux têtes, il est à Pittsburgh avec Malkin et Crosby. Claude Julien va nous expliquer que dans ce voyage-ci, là, parmi les six meilleurs jeux de puissance l'an passé, le Canadien va affronter trois de ses meilleurs jeux de puissance, incluant Toronto.
Il ne faut pas oublier une chose, là. On fait face à trois des, je pense, six meilleurs jeux de puissance de la Ligue de l'an passé, là. Quand tu regardes Vancouver, Edmonton et Toronto, c'est sûr que ça va être un défi pour nous cette année, faire face à ça. Ce qu'on veut faire, c'est de notre côté être capable d'amener notre jeu de puissance dans ce groupe-là. Faut regarder aussi comment est-ce qu'on se fait marquer des buts, là. C'est que je pense pas que c'est une raison de paniquer, mais je te dirais que faut vraiment être à notre meilleur, là, demain, parce que Edmonton, là, c'était le meilleur jeu de puissance l'an passé, là. Puis en le regardant contre Vancouver hier, là, on peut voir pourquoi.
Jean-Claude Julien parle de la manière, si tu me permets juste une seconde, là, ce qu'il veut dire, c'est que entre autres, sur un des désavantages numériques, il y avait Edmundson qui avait plus de bâton, et sur le 5 contre 3, il a dit, ben, en quelque sorte, là, c'est Weber qui a envoyé accidentellement la rondelle dans les gradins et que ça a fini dans un 5 contre 3.
Oui, c'est un bâton brisé sur un double échec d'Edmundson devant le filet. Je regardais McDavid puis Draisaitl au courant des deux dernières années. Là, si on cumule les fiches des gars là, pour les deux dernières années, c'est un cumulatif de 428 points, les deux ensemble. Des saisons de 116, 97, 110 et 105 points. T'imagines 428 points. C'est une machine, Draisaitl et McDavid. Là.
Comment on peut imaginer qu'une machine comme ces deux joueurs-là peuvent être si mal entourés avec le nombre de choix de première ronde et de choix de 4, 5, 6 qu'ils ont obtenu cette organisation-là et qu'ils n'ont pas pu entourer ces joueurs-là? C'est tout à fait incroyable. Moi, ça me dépasse un peu. Je pense que l'ancien directeur général qui était là, l'ancien des Bruins, là, pas sûr, il a perdu son job, là, puis quand on analyse ça comme il faut, là, je pense que lui, il avait entre les mains, en tout cas, l'opportunité d'entourer McDavid et Draisaitl, et il ne l'a pas fait. Parlant de McDavid et de Draisaitl, j'ai demandé à Claude Julien d'expliquer à nos auditeurs, aux amateurs, en quelque sorte, pourquoi il faut être aussi bon. Et il faut être un joueur intelligent pour couvrir des gars de la trempe de McDavid et Draisaitl. Il va nous expliquer ça un petit peu.
Si tu t'approches trop de lui avec ses vitesses, il va te déborder. Si tu es trop loin, tu lui donnes trop d'espace, c'est ce qu'il a besoin aussi. C'est que ça prend vraiment des joueurs intelligents pour jouer contre ces gars-là et être capable de les amener dans des places sur la patinoire là, où ce que tu... leur donne le moins de chances de faire du dommage, si tu veux. Puis, quand tu vois Draisaitl puis McDavid ensemble, que ce soit sur le jeu de puissance, de temps en temps, sont sur le même trio, ces deux-là se cherchent constamment sur la glace. Puis, non seulement ils se cherchent, mais ils se trouvent.
Ouais, bon champ. Trop proche, tu te fais battre. Trop loin, tu te fais battre. Tu sais, ça donne une marge de manœuvre qui est pas très, très grande.
Ah, c'est extrêmement mince. Les comparaisons sont très difficiles à faire et c'est pas ce que j'essaie de faire, mais on entendait ces affaires-là quand j'étais plus jeune et qu'on parlait de Gretzky ou de Mario Lemieux. Ouais. T'sais, on entendait ces choses-là. On disait, tu t'en vas le frapper, il va donner la rondelle à quelqu'un, il va te battre avec une passe, avec un jeu, tu vas pas le frapper, tu lui donnes trop d'espace. Et, évidemment, c'est dans une époque qui est bien différente, là, mais quoi qu'il en soit, il reste que à leur époque, McDavid et Draisaitl représentent aussi des défis quasi aussi importants. Pendant qu'on se parle, les sénateurs d'Ottawa sont en train de prolonger le cauchemar de Frédéric Anderson et des Maple Leafs. Ils viennent de marquer un autre but.
Derek Stepan.
Maintenant 5-2. Incroyable. À dire à quel point ça va être compétitif cette année, ça me permettait de faire une petite parenthèse. Oui.
Martin, si on veut éviter d'avoir Draisaitl et McDavid dans le visage, il faut avoir possession de la rondelle.
Ben oui.
Ça, je pense que c'est la base. Et ça commence avec les mises en jeu. Si tu as possession de la rondelle, c'est là que tu peux contrôler ce qui se passe sur la patinoire.
Ça commence avec les mises en jeu et dans le premier match, Jesperi Kotkaniemi et Jake Evans en ont arraché un petit peu de sorte que on a doublé la tâche de Philippe Dano. C'est exactement ce qui est arrivé en série cet été. Evans, les matchs où il a joué, a été un peu éloigné là, sur le bout du banc quand les matchs étaient sur la ligne et Kotkaniemi a dû laisser sa place dans le cercle des mises en jeu. Voici Claude Julien qui nous parle d'une faiblesse un peu anticipée cette année chez le Canadien. Par rapport à ça.
On est jeune au centre, puis ça va être un de nos défis cette année, c'est d'être capable de commencer avec la rondelle, de gagner plus de mises au jeu possible. Je te dirais, écoute, Philippe Dano continue à être bon sur ce côté-là. Je pense que Suzuki était quand même pas si pire, mais j'espère qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, que nos centres vont s'améliorer, vont prendre l'expérience. Mais c'est un défi qu'on doit faire face avec un groupe de centres qui sont extrêmement jeunes dans notre équipe.
Je pense que Suzuki a quand même fait des progrès. Déjà à la fin de la dernière saison et lors des séries cet été, il enregistrait des progrès au cercle de mise en jeu. C'est pas encore très spectaculaire, même pour un joueur aussi important que Suzuki chez le Canadien. Philippe Dano a commencé à reprendre le travail de Nate Thompson à la fin des entraînements, Jérémy. Il a recommencé à donner des cliniques de mise en jeu pour ses jeunes coéquipiers, ce que Thompson faisait très généreusement et très bien avant qu'il soit échangé en février à la date limite des échanges où il s'est retrouvé, on le sait, avec les Flyers. Alors, Dano accorde du temps à ses jeunes coéquipiers, leur donne des trucs et Claude Julien était bien content parce que il nous a raconté que c'est lui qui a demandé à Philippe Dano d'enseigner certains de ses trucs, certains de ses meilleurs trucs à ses jeunes coéquipiers et de faire en quelque sorte cet exercice de leadership que Thompson faisait l'an passé. Il l'a déjà raconté, Philippe, mais l'histoire est quand même bonne à rafraîchir. On sait que Philippe, c'est un choix de première ronde des Blackhawks de Chicago, là. Et là-bas, il y avait un spécialiste extrêmement bien connu des amateurs québécois qui a enseigné ses meilleurs trucs à Philippe Dano. Voici ce qu'il nous a dit là-dessus.
Moi, ça a été Yannick Perrault. Il faisait des allers-retours de Chicago à Rockford énormément dans la AHL, puis il a été solide pour moi. Vraiment, il m'a donné énormément de trucs, puis il était dédié, il y avait des vidéos pour nous, il montrait ça après chaque game pour voir nos petits points améliorés, puis écoute, évidemment, chaque détail qu'il donnait était précieux, donc j'ai gardé ça en banque, puis je suis content de pouvoir aider les jeunes comme ça cette année-là. Mais vraiment, Yannick a été solide avec moi.
Bonne idée, ça, quand même, être capable de passer ça au suivant. Et évidemment, j'espère que ceux qui seront en mesure d'avoir ces conseils-là pourront les appliquer dans le match. Mais, tu sais, quand tu as quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, il faut que tu sois en mesure d'en profiter, ça, c'est clair.
C'est clair. Et pendant que je te parle, je tiens au courant nos auditeurs que le jeu de puissance des Maple Leafs va peut-être les ramener dans le match parce que là, c'est 5-3 puisqu'on a parlé de ça concernant le Canadien, là, un but en avantage numérique. Écoute, évidemment, on n'attend pas de changement là, du côté du Canadien là, à la formation. Là. Je pense qu'on devrait en tout cas garder la même recette. Là. C'était malgré tout une défaite en prolongation pour le Canadien de Montréal. Chez les Oilers d'Edmonton, on verra quelques nouveaux visages dans cette équipe-là. On verra notamment un des joueurs qui a été repêché en 2015. Et puisqu'on parle beaucoup de Pierre-Luc Dubois par les temps qui courent, on va voir notamment Jesse Puljujärvi. Puljujärvi qui a été le choix de première ronde des Oilers. On se souvient là, que les Blue Jackets repêchaient juste avant les Oilers. Et ils ont pris Dubois alors qu'on prêtait l'intention à Jarmo Kekäläinen, le directeur général de l'équipe, de se tourner justement vers ce Puljujärvi. Puljujärvi, Jérémy, a passé par des moments extrêmement difficiles. On se souvient que son agent avait demandé une transaction. Le jeune homme est reparti jouer en Europe. Il a passé quelques années là-bas. Et là, il est de retour. Kenny Holland, le directeur général des Oilers, a en quelque sorte refusé de l'échanger. Et quand il est revenu avec les Oilers, bon, on lui a fait une place cette année avec l'équipe. Et Dave Tippett nous disait lors du point de presse, il était très content de son travail, de ce qu'il voit. Alors, c'est un des nouveaux visages qu'on verra avec les Oilers. Appelons ça, si vous le voulez bien, un nouveau ancien, un nouveau visage qui est en quelque sorte qui n'est pas vraiment une nouvelle figure. Il y a un jeune Québécois qui se rapproche tranquillement de la Ligue nationale. C'est le gardien de but Olivier Rodrigue, l'ancien de la LHJMQ, qui a été repêché par les Oilers d'Edmonton il y a de ça un peu plus de 2 ans. Ben, Olivier a été rappelé. Il va faire partie du Taxi Squad, de l'équipe de réserve des Oilers, parce que actuellement, Jérémy, on ne sait pas trop ce qui arrive avec Mike Smith, mais on l'a placé sur la liste des blessés à long terme. Alors, le jeune Skinner, qui était sur la liste de réserve, obtient une promotion et va être le second demain. Et Olivier Rodrigue se rapprochera de la Ligue nationale.
Alors, 18h30, c'est un rendez-vous demain, Martin?
Oui, on est là à compter 18h30 pour une émission d'avant-match. Et il y a un match qui s'annonce, ma foi, assez passionnant encore.
Comme plusieurs matchs, j'en suis convaincu, cette saison. Martin McGuire, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Bon week-end, Jérémy.
Merci, au revoir. Martin McGuire qui nous résumait aujourd'hui ce qui s'est passé chez le Canadien de Montréal.